Coué au cœur de l'info sur VOA Afrique.
Bienvenue à l'écoute de l'émission interactive de VOA Afrique. À votre avis, Nathalie Barge avec vous dans les studios de La Voix de l'Amérique à Washington pour aborder la question de la progression des femmes dans les secteurs traditionnellement masculins. Alors, comme exemple, nous avons au Burkina Faso plus de 300 filles qui ont suivi une formation dans des métiers traditionnellement masculins comme l'électronique grâce à des programmes d'inclusion sociale. En République démocratique du Congo, des filles déscolarisées apprennent la mécanique dans des centres d'éducation non formels. Et dans le monde, le nombre de femmes médecins augmente tandis que peu d'hommes souhaitent devenir infirmiers. Les femmes sont sous-représentées dans les postes décisionnels du génie civil, par exemple, est surreprésentée dans le secrétariat d'entreprise, comme nous le savons. Et pour exemple, nous avons par exemple en France, les femmes sont 70% des élèves en architecture, mais seulement 8% à diriger des agences d'architecture. Alors, que pensez-vous de la division du travail selon le genre? Quels sont les obstacles à la féminisation ou masculinisation des métiers? Comment permettre une meilleure inclusion des femmes dans les professions de prestige, hein, les professions de haut niveau, on va dire plutôt. Alors, nous avons comme invité, nous avons Julienne Tsangesepou, qui est experte en genre et développement au Cameroun. Elle est psychologue, elle est aussi agrégée d'audiophonologie. Comment allez-vous, Julienne? Merci beaucoup d'être avec nous.
Bah, je vais très bien. Bonsoir, Nathalie.
Merci beaucoup.
Je suis très contente d'être avec vous.
On est content également de vous avoir. Ça veut dire que votre bus est arrivé à l'heure. Votre bus qui partait de Douala. Donc, on a aussi avec nous normalement Caroline Pindinora. Je ne sais pas si nous avons pu la joindre. Elle est présidente de l'Association des femmes architectes du Congo. On essaie donc de la joindre également sur WhatsApp. Il me semble qu'on a un numéro de téléphone qui est professionnel, donc elle pourrait éventuellement nous envoyer peut-être un autre numéro si on ne parvient pas à la joindre. Alors Julienne, vous-même, vous êtes donc formatrice, hein, et en fait vous avez remarqué finalement que dans les questions de métier, on est toujours un petit peu cantonné, métier masculin, métier féminin. Vous avez remarqué qu'en Afrique par exemple, bon, on dirige les femmes vers l'agroalimentaire, toutes ces choses-là, les petits métiers, l'informel, etc. Mais vous voulez qu'on demande plus aux femmes, n'est-ce pas?
Oui, c'est ça à mon avis, parce que la notion même d'entrepreneuriat féminin fait que la perception que la société a de cet entrepreneuriat est réduite. Donc c'est des petites entreprises, pas coûteuses, pas besoin de beaucoup d'investissement, ça doit être joli, ça doit toujours regarder la mode, la couture, ou bien alors des choses très très esthétiques, alors qu'il y a des métiers dans ce secteur-là même qui pourraient être également exercés par les femmes.
Alors, vous-même, hein, Julienne, hein, vous avez remarqué qu'il y a des stéréotypes, hein, d'un leadership exclusivement masculin, et c'est encore profondément ancré dans les mentalités. Alors, que faire selon vous justement pour déconstruire ce stéréotype de genre?
Mais il faut déjà admettre que ces stéréotypes sont des archaïsmes, parce que autrefois, le travail était lié à l'anatomie et à la physiologie de ceux qui travaillaient, les forts, les ceci, oh, celles qui font des enfants, ceux qui n'en font pas. Donc c'est un jeu de muscles, c'est un jeu de tout ça. Aujourd'hui, toutes les sociétés doivent évoluer et surtout les familles. Les familles doivent accepter que les filles fassent les études qu'elles veulent. Et au-delà de ça, il faut que cette société, avec les programmes gouvernementaux ou non, ou des autres intervenants, parties prenantes, mette en place un système de recrutement qui fasse que, à l'embauche, la fille voit quand même qu'elle n'a pas perdu son temps en étudiant un métier qui était essentiellement féminin. Et ce problème à l'embauche est très important parce que beaucoup de filles ont fait la mécanique, l'électricité, le bâtiment, mais ne trouvent pas souvent des employeurs qui les laissent s'épanouir dans leur métier. Donc, elles ne pourront pas à la longue avoir suffisamment d'expérience pour ouvrir leur propre entreprise. Alors que les entrepreneurs, tout le monde sait, doivent avoir une certaine expérience avant de se jeter dans l'entrepreneuriat.
Julienne, restez avec nous. On va écouter la réflexion d'un de nos auditeurs. Il est en Côte d'Ivoire.
Je remercie tout le monde. Je remercie VOA, les auditeurs. Un grand coucou. Le sujet est très intéressant. La femme ne peut pas tout faire. Nous sommes en Afrique, nous sommes des Africains. La femme s'en sort mieux dans certains domaines vraiment masculins. Elle arrive à s'imposer. Puisque lorsque je faisais l'informatique en 2004-2005, j'avais ma voisine, c'était une très bonne informaticienne en maintenance. Elle faisait beaucoup de merveilles. Et puis, l'une des premières, je dis bien l'une des premières mécaniciennes de Côte d'Ivoire, je l'ai côtoyée. Mais lorsque je lui ai demandé, mais pourquoi est-ce que tu as laissé la mécanique? Elle m'a dit que voilà, j'ai fait un enfant, donc tout ça là, je ne pouvais plus. Donc, pour vous dire de façon naturelle même, il y a certaines femmes qui peuvent faire des boulots d'hommes, comme on le dit, peut faire des boulots d'hommes, peut s'en sortir bien, mais à la longue, elle n'arrive pas à décoller. Mais celles qui s'en sortent mieux, voilà, elles peuvent continuer, quoi. Elles peuvent continuer, comme au Burkina. J'ai été au Burkina, vraiment, elles s'en sortent bien, les femmes au Burkina. Elles sont très battantes, elles sont presque dans tous les domaines. Ici, en Côte d'Ivoire aussi, nous avons des femmes ministres, nous avons des femmes DG, nous avons des femmes dans plein de domaines. Bonne émission à vous. Merci.
Voilà, c'était Yeriri Koulibaly, donc il est en Côte d'Ivoire. Julienne Tsangue-Sepou, vous avez entendu hein, toujours, les femmes ne peuvent pas tout faire, on avance toujours l'argument physique. Et ce qui est intéressant dans la réflexion de cet auditeur, c'est que bon, il parle de l'exemple de cette jeune femme qui, bon, après avoir eu un enfant, elle a été obligée d'arrêter finalement son métier de mécanicienne. Mais cela, c'est pas vraiment dû au genre, c'est plutôt dû finalement à la accompagnement, c'est-à-dire que bon voilà, si elle avait été plus accompagnée après avoir fait un enfant, il y a le problème des crèches qui se posent, des garderies d'enfants, de l'accompagnement familial et toutes ces choses-là. Donc est-ce qu'il faut un accompagnement très particulier pour les femmes justement pour leur permettre d'accéder à ces métiers-là?
En 1975, quand on a commencé les conférences sur la femme, je pense qu'il y avait un slogan qui disait « J'ai voulu changer le monde ». Mais je n'ai pas trouvé de babysitter. C'est ça le problème. C'est que, comme citoyenne, ces femmes qui se mettent dans certains métiers devront, pour exercer leur métier et avoir leur droit à l'épanouissement et à la contribution au niveau national. C'est que là, le nœud du problème, c'est que d'office, nous pensons qu'elles ne peuvent pas. On ne pose pas la question en termes de qu'est-ce qu'on peut faire pour qu'elles puissent. Elles ont déjà prouvé leur capacité à acquérir les outils. Il faut maintenant leur donner l'accès réel. Justement, ces crèches-là, justement, les stages, justement, favoriser le fait qu'on ne les discrimine pas à l'entrée des stages ou à l'entrée des entreprises ou que au moment où elle cherche du crédit, on ne dise pas que non, on n'est pas sûr qu'elle va rembourser. Le monsieur se rend peut-être compte, j'espère, que nous ne disons pas que nous voulons que les femmes fassent absolument des métiers d'hommes. Nous sommes en train de dire que si elles veulent faire ces métiers, elles ont besoin d'un accompagnement spécial qui est lié sûrement soit à leur nature, soit au regard que la société a, dont la société doit évoluer. La famille elle-même, au départ, doit évoluer.
Merci beaucoup, Julienne. Restez avec nous. On a finalement pu avoir Caroline Pindi-Nora, qui est présidente de l'Association des femmes architectes du Congo. Caroline, merci beaucoup d'être avec nous.
Oui, c'est moi qui vous remercie, Madame Nathalie.
Alors, donc, vous, hein, vous êtes architecte. Vous êtes donc présidente d'une organisation où on n'a que des femmes architectes. On parle un petit peu là des métiers. Alors, j'ai cité tout à l'heure l'exemple de la France où les élèves architectes femmes sont 70%, mais seulement 8% à diriger des agences. Alors, est-ce qu'on se retrouve dans le même cas de figure, un petit peu, dans votre pays, donc la République démocratique du Congo ?
Absolument, c'est la même chose partout. Vous savez, moi, je mets ça dans le compte de, sur le compte de, du conditionnement. Le conditionnement que les femmes ont subi, déjà toutes petites. C'est-à-dire qu'on ne nous apprend pas à nous mettre, à prendre des risques. Et à chaque fois qu'on est devant une profession ou un métier à prédominance masculine, on a l'impression que, bon voilà, c'est pas fait pour les femmes. Et moi, je pense qu'il y a aussi plusieurs, à part ça, il y a plusieurs freins, entre autres la maternité, vous savez, parce que lorsqu'on finit, on finit ses études, on a besoin, un peu comme la dame vient de dire, on a besoin d'un encadrement, on a besoin de, d'entrer dans la profession. Alors les femmes, généralement, je parle de l'Afrique et surtout de la RDC, les femmes, qu'est-ce qu'elles font ? Elles se marient. Et lorsque tu te maries, tu prends du retard. Et si tu ne te maries pas, tu te maries à un homme qui ne comprend pas que tu as, comment je peux dire, que tu as un rêve, que tu, voilà, que tu veux exercer ta profession, ben c'est fini pour toi. Parce qu'ici, en fait, c'est vrai qu'on a, on a aboli l'autorisation maritale, mais c'est encore ancré dans les esprits, dans la tête des femmes, qu'il faut absolument avoir l'aval de ton mari pour que tu puisses te lancer, justement, ouvrir ton bureau d'études et tout ça. Donc il y a ça. Et autre chose, il y a aussi les finances qui dérangent, parce que si tu dois ouvrir un bureau d'études, tu dois avoir des sous. Tu dois avoir assez de moyens. Et bon, c'est, généralement, c'est compliqué. C'est là maintenant qu'on a besoin que le gouvernement ou que certaines structures accompagnent justement ces femmes-là qui éprouvent le besoin d'ouvrir des bureaux d'études, d'exercer en tant qu'architecte, qu'on les accompagne jusqu'au bout, de manière à ce qu'on ait un peu plus de femmes justement dans la profession. Voilà.
Ouais. Alors justement, Caroline, je voudrais citer une architecte, hein, Julia Morgan, une architecte californienne, fin du 19e oui. siècle, hein, c'était la première femme admise, et je dis bien admise, au programme d'architecture de l'École nationale supérieure des beaux-arts à Paris. Elle a fait des chefs-d'œuvre, une majorité oui. hein, de bâtiments aux États-Unis sont influencés par cette grande dame. Et donc, en fait, là, mm-hmm. ça pose aussi la question de l'accessibilité, finalement, même aux études. Aujourd'hui, on n'en est plus là. On a le droit, effectivement, de suivre toutes les écoles qu'on veut. Mais est-ce que, je voudrais dire peut-être en termes de réparation, est-ce qu'il n'y aurait pas ici mm-hmm. des programmes qui sont présentés, justement, pour, à ce moment-là, donner plus de chance aux femmes qui veulent vraiment intégrer ces métiers qui sont encore très majoritairement masculins.
Moi, je parle pour le compte de la RDC, pas du tout. Mm-hmm. Il n'y a pas de programme, c'est tout le monde la même chose, on sert à tout le monde le même repas. Donc, il n'y a pas de favoritisme, il n'y a rien qui a été installé pour qu'on puisse faciliter la tâche aux femmes. Non, pas du tout. Alors, c'est pour ça que, par exemple, nous, dans AFARC, donc l'Association des femmes architectes du Congo, ce qu'on fait, c'est de la sensibilisation dans les écoles, dans les lycées. On sensibilise les jeunes filles, on leur explique c'est quoi l'architecture. On les pousse un peu à sortir en fait de conventions, parce que la plupart des filles c'est commercial, c'est bon, je veux devenir banquière, je veux devenir, je sais pas moi, avocate. Très peu choisissent, comme on vient de dire, des filières masculines. Et on est là pour les sensibiliser, les pousser en fait à choisir justement ces filières-là. C'est pas facile parce que, par exemple, j'ai une jeune fille que je suis, que je coach aussi, bon, je mentore, hein, voilà. Mmh. Et, c'est ma mentorée, donc elle a un problème avec sa mère, sa famille. En fait, le problème, ce n'est pas elle. C'est sa mère qui bloque, qui lui dit « Non, mais écoute, faut pas faire ça parce que c'est pour les garçons, c'est pas pour les filles. » Alors qu'elle, elle veut vraiment faire l'architecture. Alors ce que j'ai fait, c'est que je suis entrée en contact avec la maman, mais c'était très difficile pour que la maman lâche prise, hein, pour qu'elle accepte que sa fille choisisse justement l'architecture. C'était très, très difficile. Donc il y a aussi un problème de mentalité. Il faudrait vraiment qu'on sensibilise dès le bas âge. Moi, j'ai donné déjà cette piste de solution-là. Qu'on commence déjà à l'école à insérer le cours d'égalité des sexes. C'est très important que ça commence déjà à l'école. C'est là qu'on va apprendre justement aux jeunes filles le leadership féminin, le fait que bon voilà, tu n'as pas à te sentir diminué quand tu es à côté d'un garçon, tu peux faire exactement la même chose que lui. Donc il y a tout ça, qu'on commence vraiment à la base. Parce que si l'enfant apprend à l'école, moi je prends l'exemple de ma fille de 6 ans, un jour j'ai mangé une banane, j'ai voulu jeter par terre, elle me dit non maman, ramasse la peau de banane et mets dans la poubelle. Le professeur a dit qu'il fallait jeter dans la poubelle. Vous imaginez l'influence que le professeur a sur les enfants? Donc oui, il faudrait vraiment qu'on arrive à changer les mentalités et voilà, peut-être arriver aussi à bouger les choses de cette manière. Moi je pense que c'est vraiment ce qu'il faut faire. Il faut que le gouvernement ou les personnes, les organismes internationaux, pourquoi pas, qu'ils prennent vraiment en charge le changement de mentalité et la sensibilisation des jeunes filles voilà, au choix de métiers dits masculins. Voilà.
Caroline Pindinora, Julienne Sanguessé, pour rester avec nous, je voudrais qu'on écoute les réflexions de deux de nos auditeurs encore. Commençons par un auditeur à Lomé.
Bonsoir VOA Afrique. La progression des femmes dans les secteurs traditionnellement masculins, c'est à féliciter et à encourager. Aujourd'hui, il faut ça, parce que tout le monde ne peut pas travailler dans la fonction publique. Et ici à Lomé, par exemple, j'en connais plusieurs qui sont impliquées, des femmes peintres, mécaniciens, conductrice de taxi et plein. J'en ai vu également tout dernièrement à Abidjan. C'est vraiment encourageant et nous devons les accompagner. C'est la force physique qui manque aux femmes de s'impliquer dans toutes ces activités. Mais je pense que c'est possible, puisque aujourd'hui, il y a des femmes qui font le bodybuilding, qui sont aussi fortes, voire même plus fortes que des hommes. Donc, ce qui veut dire que c'est possible. Et si on ne peut pas travailler tous dans la fonction publique, ça ne veut pas dire que le reste, les autres femmes vont rester à la maison. Elles doivent aussi faire quelque chose. C'est une très bonne initiative et nous devons encourager ça et surtout exciter nos dirigeants à augmenter les écoles professionnelles, les écoles de formation professionnelle pour que les filles puissent avoir cette opportunité de pouvoir faire de ces activités-là. Je vous remercie, Jean-Eudes Lomé Togo.
Bonjour et bon week-end. Je pense que en 2023, il n'y a pratiquement aucun poste, aucun secteur d'éducation qui soit réservé uniquement à un genre ou à un autre et les yeux sont ouverts. Donc moi je me rends compte que par filière, par exemple, il y a des demandes maintenant qui existent au niveau de l'Afrique où on forme des gens rapidement pour des secteurs d'activité. Je ne sais pas si au niveau des États-Unis, mais au niveau du Canada, il y a des secteurs d'activité qui existent comme les soins des personnes âgées ou le domaine de la médecine ou des sciences infirmières. Donc moi je pense que maintenant tout est ouvert, donc tout le monde peut participer dans tous les secteurs. Bon week-end, Jean-Louis de Kigali.
Alors, Julienne Tsangue-Sepou, cette question s'adresserait à vous. On sait que les grands noms de chefs, hein, de cuisiniers sont masculins, les grands couturiers sont masculins. Or, nous savons également que ce sont les dames, d'une manière générale, qui font la cuisine et très bien à la maison, on imagine. Hein, les messieurs l'apprécient beaucoup et ils font beaucoup de couture. Alors, comment expliquer cela? On a aussi le même problème au niveau du cinéma. On a de nombreux de femmes talentueuses qui sont des cinéastes, mais les noms les plus connus sont toujours masculins. Est-ce que ça veut dire qu'on a également au niveau du marché un système de discrimination qui serait en place?
Oui, je crois qu'il ne faut pas se mettre la main sur les yeux. On sait qu'il y a cette discrimination. Et je suis d'accord avec les auditeurs et tous ceux qui ont apporté leur contribution, mais sauf que notre préoccupation ici, c'est de savoir est-ce que les femmes peuvent aller aussi loin et avec les métiers des hommes, comme on dit les métiers des hommes. Tous les messieurs ont parlé. Ils ont parlé de chauffeurs de bus, de mécaniciens. Au Cameroun, il y a plein de filles qui sont dans les lycées techniques et qui font mécanique, bâtiment et tout. Mais il y a très peu de femmes qui gèrent des entreprises qui ont qui sont liés à BIT et tout ça. Et c'est ça que nous sommes en train de dire. Quand on dit entreprise où que les femmes travaillent ou font un métier d'homme, on les voit toujours au bas de l'échelle. Ce qui nous préoccupe, c'est qu'on leur laisse la chance de ne pas seulement se faire fabriquer comme mécanicien ou comme je ne sais pas, mais d'être des ingénieurs qui pratiquent réellement leurs fonctions. On a parlé de la fille, la dame qui a fait informatique et qui est obligée aujourd'hui de garder l'enfant. Ce n'est pas qu'on ne fait pas des efforts dans nos pays, on fait des efforts. Mais en réalité, le problème réside ailleurs. Il y a des choses qui sont difficiles à changer. Le changement est un processus très lent. Je vais garder la parole pour donner un exemple très simple. Quand vous avez une jeune femme dans une entreprise, une grande société internationale, tout ne se joue pas seulement sur le plan du travail qu'on exécute. Tout se joue également sur, beaucoup de choses se jouent sur le plan des personnes qu'on rencontre. Je prends le cas de l'Angleterre. Les gens en Grande-Bretagne, les grands patrons se rencontrent sur le green, donc au golf, se rencontrent dans les pubs, se rencontrent dans des endroits où on se fréquente après 21h, 20h, où on boit du whisky. Est-ce que vous voyez la jeune femme allant dans le pub ou bien sur le green à 21h parler à tous les pétroliers qui ont besoin d'un employeur, d'un employé ou d'un jeune ingénieur aux dents longues, mais qui soit très, très efficace? Donc les messieurs qui sont à la tête de ces sociétés vont parler entre eux et vont se dire, t'as pas un jeune homme là qui a telle qualité, moi j'en ai besoin. Et c'est les hommes qui vont passer. Alors, donc il y a déjà ce blocage. Oui, j'ai bien dit que je ne vais pas pour ça. Donc c'est ça, il y a des choses qu'on ne peut pas, pour lesquelles on se pose encore des questions. Oui. Il faut
Julienne, je m'excuse de vous couper là parce qu'on n'a plus que quelques minutes, ça va être très rapide. Je voudrais donner, ça c'est la question des réseaux en fait, Julienne. Les réseaux masculins, on sait que les hommes au niveau professionnel, ils sont très bien organisés en réseau et on sait que c'est ce qui manque aux femmes effectivement. Et justement, c'est ce que fait Caroline Pindy, n'est-ce pas, architecte à travers son association de femmes architectes. Alors Caroline, pour terminer très rapidement, que faut-il faire pour renforcer la confiance de la fille, de la jeune fille au niveau culturel? Autrement dit, comment on est passé du « tu ne peux pas » à « tu peux » dans les familles contemporaines égalitaires? Parce qu'avant, on disait toujours à la fille « oh ça, c'est trop compliqué pour toi, cette technique, tu ne peux pas ». Maintenant, aux filles, on leur dit « tu peux », n'est-ce pas? Et pourquoi c'est essentiel de les rassurer sur ce plan-là?
Oui, c'est très important parce que déjà, moi je voudrais épingler ici le phénomène de la reine des abeilles qui bloque mais sérieusement l'épanouissement des femmes. Donc il y a deux phénomènes en fait qui bloquent l'épanouissement des femmes. C'est le phénomène de plafond de verre, c'est-à-dire les femmes qui arrivent à briser le plafond de verre comme on dit, et le phénomène de la reine des abeilles. Donc il y a une femme qui est arrivée au sommet, qui en a bavé, qui est arrivée au sommet et qui a du mal ou ne veut pas que les autres femmes aussi évoluent et arrivent à son niveau. Ça, c'est un problème dont il faut parler aussi. C'est-à-dire que les femmes qui sont déjà arrivées au sommet ont du mal à accepter que les autres évoluent, alors qu'en fait, il faudrait vraiment qu'on fasse preuve de sororité. C'est très important. Il faudrait que les femmes arrivent, justement, celles qui sont arrivées, arrivent à prendre sous leurs ailes les autres qui se battent encore pour monter. Et ça, c'est vraiment, vraiment, vraiment un problème que j'aimerais épingler ici et alerter les femmes, leur dire de cesser, d'arrêter d'agir comme ça. La jeune fille, aujourd'hui, est l'espoir, en fait, de toute une nation, de tout un peuple. Il ne faudrait pas que les parents restent conservateurs. Vous voyez ? Ça, c'est vraiment un problème aussi parce qu'on voit comment on élève les filles et les garçons, c'est différent, surtout en Afrique. C'est-à-dire que par exemple, chez nous, dans les milieux reculés, les parents préfèrent encore envoyer le garçon à l'école plutôt que la fille. C'est vrai qu'on se bat pour que toutes les filles aillent à l'école, mais quand les parents n'ont pas de moyens, ils préfèrent envoyer le garçon et laisser la fille à la maison, lui dire « bon voilà, toi, tu auras un homme qui va t'épouser ». Vous voyez ? Donc c'est aussi un problème de culture. Il faudrait qu'on arrive à changer les mentalités, comme j'ai dit ici, à sensibiliser les familles, à sensibiliser, mais vraiment à tous les niveaux, de manière à ce que, bon voilà, que la classe des mamans conservatrices hein, ou des femmes conservatrices passe.
Oui, Caroline Pindi, vraiment, je m'excuse, on arrive au terme de l'émission. C'était Caroline Pindi Nora, présidente de l'association de femmes architectes du Congo, et Julienne Tsangue Sepou, qui est experte en genre et développement au Cameroun. Merci beaucoup à toutes les deux pour toutes ces précisions. Avec vous, c'était Nathalie Barge, à la production Michel Joseph. Bonne soirée et bon courage.